Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous. Dernier épisode de la série enregistrée et interrompue en mars dernier, d'une génération à l'autre, regard croisé à l'horizon 2030. Un thème qui vient heurter à sa manière l'événement brutalement survenu au printemps. Comme pour les précédentes émissions, deux invités ce soir encore, deux générations, pas si éloignées l'une de l'autre, mais tout de même, deux approches et une préoccupation commune, la nature. De façon de la considérer, l'une de nos invitées est historienne. Elle parle de se battre pour elle, la nature, et ne sépare pas ce combat des luttes sociales. L'autre est philosophe et lui propose de l'observer avec bien plus d'attention, en somme, de refaire connaissance avec elle. Une autre bataille, si l'on veut, plutôt culturelle. À l'une et à l'autre, nous allons demander de décrire un avenir assez proche pour donner de la crédibilité à leurs analyses et nous permettre à nous aussi de nous projeter au-delà d'une période pour le moins troublée. Valérie Chansigo, Baptiste Morisot, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie Chansigo, historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée, laboratoire Sphère, Sphère pour sciences, philosophie et histoire, c'est au CNRS, et vous êtes à l'université Paris 7 Diderot. Baptiste Morisot est philosophe épisteur, il est également écrivain, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Il vient de faire paraître Manière d'être vivant dans la belle collection Actes Sud des mondes sauvages. Valérie Chansigo, elle, et c'est pour ça que je parlais de combat, c'est son titre, Les combats pour la nature, c'est paru chez Buchet-Chastel. Baptiste Morisot, j'ai dit pisteur parce que vous êtes sur la piste des animaux, vous avez déjà publié sur la piste animale, c'était un précédent ouvrage, et j'ajoute que vous êtes aussi écrivain, vraiment, le style de ce livre est très beau, c'est un plaisir de lecture. Un philosophe qui se voudrait volontiers délégué syndical du vivant, êtes-vous cette formule ?
Non, elle n'est pas de moi. C'est une métaphore qui a été formulée la première fois par James Lovelock, ce très grand savant spécialiste du système Terre qui a inventé l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse Gaïa qui aujourd'hui est sous ses formes scientifiques, parfaitement acceptée par les scientifiques du système Terre. C'est pas du tout une hypothèse mystique qui consiste à diviniser la nature. Et dans un texte de 1990, il a cette formule, cette métaphore que je trouve très puissante, dans laquelle il dit « Nous ne sommes pas les maîtres de la nature, nous ne sommes pas ses intendants, nous sommes des délégués syndicaux du reste du vivant, nous sommes simplement des ouvriers un peu plus combatifs et un peu plus capables de négocier avec le patronat humain qui sait arroger des libertés diaboliques dans son appropriation des dynamiques du vivant. » Et il ajoute « En tant que délégués syndicaux du vivant, nous sommes simplement des ouvriers un peu plus intelligents qui défendons la cause des abeilles, des vers de terre, de la faune des sols, des bactéries et des forêts anciennes. »
Lesquels comptent bien sur nous, en tout cas, on aimerait.
Lesquels comptent sur nous et lesquels... Que nous trahissons beaucoup et dont on néglige, et c'est ça finalement la force de la métaphore de Lovelock, on néglige leur rôle dans la productivité de l'habitabilité de la Terre. Puisque le propre de l'hypothèse Gaïa, c'est cette idée selon laquelle les vivants contribuent, de manière bien sûr pas intentionnelle, à l'habitabilité de la Terre, par tous les effets métaboliques qu'ils produisent. La production d'oxygène par les végétaux est un cas évident. Et donc cette idée de délégué syndical, cette métaphore, n'est pas complètement arbitraire. Ce sont des ouvriers qui produisent l'habitabilité de la Terre. De cet égard, ils sont beaucoup plus importants que nous, mais par contre, il faut les défendre.
Et je précise donc pisteur parce que vous passez beaucoup de temps sur le terrain et que votre propos est vraiment de croiser cette observation nuit et jour, car vous êtes beaucoup la nuit dans la nature, avec votre pensée, tout simplement. Ça devrait vous plaire, Valérie Chansigo, cette définition du délégué syndical, vous qui mettez en avant le social.
Oui, ça me fait penser à une autre définition proposée par Élisée Reclus, lorsqu'il dit en 1905, lors de son dernier grand livre, L'homme et la terre, que l'homme et la nature prenons conscience d'elles-mêmes. Et c'est une très très jolie formule également, qui rejoint un petit peu cette idée de l'être humain qui est un élément de la nature, mais un élément un peu particulier, on s'en rend bien compte, et cette particularité lui donne des obligations supplémentaires. Ce qui est intéressant chez Reclus, c'est qu'il ne coupe jamais cette vision de cette relation extrêmement proche. Il faut voir il y a vraiment des pages absolument magnifiques dans son expérience de la nature, dans ce qu'il ressent au contact de cette nature, au milieu de cette nature, mais ce qu'il fait, c'est que jamais il ne coupe cette réflexion d'une exigence de liberté et d'émancipation. Et ça, c'est tout à fait particulier dans sa pensée, qui est une pensée progressiste. Ce qui n'est pas souvent le cas.
Alors, on voit bien donc, le travail de l'historienne ici, hein, qui remonte assez loin en amont sur cette histoire des relations de l'homme avec la nature, avec quand même une définition de la nature. Vous dites sans embâge, hein, dès le début de ce dernier ouvrage, la nature, au fond, ce terme de nature, vous le trouvez ambigu. Est-ce qu'on parle de nature avec ou sans l'espèce humaine? C'est au cœur du débat.
Oui, c'est que si on part des usages actuels, c'est difficile de se faire une opinion parce que c'est un vaste bazar. Le mot est utilisé dans des sens extrêmement divers et incohérents. Si on regarde d'un point de vue historique sur le temps long, voire très long, on se rend compte que le mot nature a d'abord été convoqué pour définir tout ce qui n'appartenait pas au spirituel. Il y avait le monde matériel, le monde spirituel, et ce monde matériel, c'était la nature. On retrouve cette idée dans l'expression de science naturelle, qui va, à une époque, regrouper tout autant la physique, la chimie, la botanique, la zoologie, mais aussi l'astronomie. Puis, au XVIIIe siècle en particulier, commence à émerger une autre utilisation qui ne remplace pas la première, mais qui lui fait concurrence, où la nature, c'est tout ce qui n'est pas touché par l'homme. Et là, on voit cet usage de cette nature qui s'oppose à la culture.
La nature vierge, en fait, qui n'a pas encore...
Oui, qui n'est pas
affectée par exemple.
Voilà, qui n'est pas affectée d'une façon ou d'une autre par l'être humain, ce qui est une notion d'ailleurs assez compliquée historiquement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces deux sens, ces deux usages ont continué à perdurer, et c'est extrêmement compliqué quand on a un auteur qui parle de nature de savoir exactement ce qu'il a en tête, parce que il peut très bien jouer sur cette ambiguïté.
Vous comprenez cette ambiguïté, Baptiste Morisot? Vous l'abordez
absolument. Et cette distinction, cet héritage, il est extrêmement intéressant à manipuler en philosophie quand on crée des concepts et quand on prend des décisions théoriques, parce que ce mot de nature, qui est une traduction de la phusis grecque puis du natura latin, a joué tous les rôles dans l'histoire de la pensée occidentale. Il a traversé tous les sens et il s'est cristallisé pendant l'époque moderne dans des formes qui sont, je dirais, décisives pour expliquer la crise écologique dans laquelle nous sommes. Et Valérie a donné deux significations qui ont été importantes. Il me semble que l'invariant qu'on peut conserver des deux définitions que vous avez données, Valérie, c'est le fait que c'est toujours une nature prise dans un dualisme. À mon sens, ce qu'il est intéressant de critiquer, c'est pas le concept de nature en soi. Le concept grec de nature, par exemple, est extrêmement riche à mobiliser. C'est la nature dualiste. C'est la nature prise dans une opposition avec, la plupart du temps, un pan fondamental du monde humain, que ce soit le pan technique, quand c'est l'artificialité, ou que ce soit le pan spirituel, quand c'est l'opposition matière-esprit. Et là, cette nature dualiste qui sert à opposer les vivants, le monde vivant, des humains, il me semble qu'elle a joué un rôle profondément critiquable dans notre héritage. Par exemple, quand j'écris volontiers que je n'utilise plus le mot de nature, c'est précisément cette nature dualiste qui m'intéresse. C'est cet usage qui est critiquable, à mon sens. C'est pas le mot nature en soi.
Oui, parce que vous l'entendez comme une rupture. Au fait, on a rompu ce lien de parenté qui, pour vous, est évident.
Exactement.
Avec l'animal, avec la plante aussi. Hein, on va en parler, pas que de l'animal.
C'est en effet une bonne manière de le formuler pour moi. Cette idée d'extraction de la parenté. Les dualismes prennent la forme d'extraction de la parenté.
Il faudrait sans doute rajouter quelque chose pour être exact, c'est que depuis 3 siècles, la nature, ou la référence à la nature, ce qui n'est pas exactement la même chose, sert également d'outil pour créer de l'inégalité entre les êtres humains, pas simplement entre les hommes d'un côté et la nature, mais également à l'intérieur des populations humaines. Et que ça a été un formidable outil, cette référence à la nature, pour exclure ou pour dégrader la situation de pans entiers de l'humanité. Que ça soit les Noirs, que ça soit les pauvres, que ça soit les femmes. Cette dualité, il faut bien la voir dans un sens, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, c'est aussi au sein d'une société qui a produit, qui a construit de l'inégalité. Et on ne peut pas comprendre ces sociétés en oubliant cette production d'inégalités.
Vous ne détachez jamais, on le voit dans tout au long de votre ouvrage et même les précédents, je pense, mais vous ne détachez jamais la condition humaine, au fond, de ce rapport à la nature. Pour vous, c'est parler d'environnement, ce n'est pas très intéressant. Ce qui vous intéresse, c'est plus de voir en quoi elle touche à nos relations humaines.
Mais je prends un parallèle.
Là, je parle d'économie, bien sûr, mais de politique aussi.
Tout à l'heure, j'ai cité Élisée Reclus. Et Élisée Reclus, comme son ami Pierre Kropotkine, qui était deux géographes anarchistes, étaient des darwiniens. Et ils allaient puiser dans cette idée d'évolution quelque chose qui était une sorte de justification de leur désir d'une société libre et émancipatrice. Et à la même époque, il y a quelqu'un qui s'appelle Haeckel, qui est connu parce qu'il a inventé le terme d'écologie, qui a donné la science que l'on connaît, qui lui est proche des proto-nazis, pour dire les choses simplement. Il meurt avant l'avènement du parti nazi, sinon il aurait adhéré. Et il va puiser Haeckel également dans le darwinisme, mais lui, pour justifier le racisme et la mise en esclavage de pans entiers de l'humanité. Et on voit que la même référence à la nature, à l'environnement, voire au darwinisme, peut servir des projets totalement différents.
Vous avez étudié beaucoup d'historiens, on voit tout ce parcours. Je pense à Veblen, 1899, vous allez nous en dire plus bien sûr, mais qui travaille sur la consommation, la société américaine, exclusivement, enfin au début en tout cas, de ses travaux. Et il en arrive au gaspillage. Et le gaspillage tout de suite, c'est-à-dire la préhension sur la nature, la manière très brutale dont on peut se servir d'elle, va devenir très vite un signe distinctif. Ce sont les plus riches qui gaspillent, juste pour montrer qu'eux peuvent se le permettre, ou qu'en tout cas, d'autres ne sont pas capables de gaspiller. C'est dans ce sens que vous faites le lien constamment avec la nature.
Tout à fait.
C'est toujours une question de progrès social ou pas.
Très souvent, pour dire les choses simplement, les environnementalistes résument l'humanité en quelque chose qui serait un bloc relativement homogène. On va parler de l'impact de l'homme sur la nature. Alors, c'est l'impact de certains êtres humains, mais pas de tous, sur la nature et aussi sur les autres êtres humains. Il y a toujours cette idée qu'il faut introduire de la différenciation. Ce qui est absolument génial avec Veblen, c'est qu'en 1899, il va prendre pour la première fois l'idée de consommation en dehors d'un cadre économique pour le faire rentrer dans un cadre social. Et il montre bien que le gaspillage et que la consommation, ce n'est pas un accident de parcours, c'est un produit absolument inévitable d'une société inégalitaire.
On est là à la toute fin du 19e siècle. On va retrouver bien sûr cela très exacerbé à la fin du 20e, Baptiste Morisot.
Oui, si je peux rebondir sur cette question. Il me semble qu'il y a des cas très puissants qui sont documentés actuellement, en histoire environnementale notamment. Et j'en veux pour preuve un livre que je trouve fascinant, sur lequel je travaille beaucoup ces derniers temps, qui s'appelle un livre américain, écrit par un historien environnemental qui s'appelle Michael Wise. Le livre s'appelle Producing Predators, Produire les prédateurs, et il met en scène les interactions entre des colons américains, capitalistes, propriétaires de bétail dans le Montana et l'Alberta, les populations amérindiennes de Blackfeet, les loups et les bisons. Et ce qui est prodigieux dans ce texte, c'est qu'il va montrer comment l'opposition entre les prédateurs et les producteurs n'est pas du tout une opposition écologique, naturelle, mais une construction politique, et donc qui est produite par les colons elles-mêmes, bien évidemment, et qui a pour vocation de faire rentrer dans la même catégorie deux usages de la terre pour les stigmatiser au profit d'un autre usage de la terre. Alors, quels sont les usages de la terre qui sont stigmatisés? C'est bien évidemment les usages appelés prédateurs, et ça va permettre de considérer que les loups, comme prédateurs, ne font que détruire de la valeur. Ils attaquent le bétail et donc ils doivent être éradiqués. Et parallèlement, les Blackfeet, qui sont des chasseurs-cueilleurs, eux aussi chassant les bisons, sont appelés prédateurs. Et donc, ce type de prédation, c'est qu'ils détruisent de la valeur et ils n'en produisent pas. Conséquemment, ils doivent être parqués dans des réserves et eux aussi éradiqués. Et tout ça au profit de ce qu'ils appellent production et qui est leur usage de la terre. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit une de ces solidarités entre la production d'inégalités entre groupes humains et la production de violence à l'égard du monde des non-humains sur cette question centrale des usages de la terre. Quels sont les usages légitimes de la terre? Et la machine coloniale, on le sait, a justifié l'expropriation et des humains et des animaux non humains au nom du monopole du bon usage de la terre qui est le leur et qui a donné l'agriculture moderne, conventionnelle, dans ses formes tardives, à l'égard de laquelle on peut se demander si c'est vraiment un bon usage de la terre au sens strict.
Oui, c'est intéressant parce que vous arrivez au même résultat par des voies très différentes. Et ce qui vous attriste évidemment, vous, Baptiste Morisot, c'est qu'on en arrive à une crise écologique avec les circonstances que vous venez de décrire, et on arrive surtout à un appauvrissement de nos relations au vivant. C'est-à-dire qu'on ne sait plus entrer en contact avec lui. Ça retombe, on va retomber là sur l'essentiel de vos travaux. Parlez-nous un peu de ce rôle de pisteur. Vous ne détachez pas du tout de votre analyse philosophique.
Hein, non, c'est ça pas du tout. Pas
assez
du tout.
C'est prenant dans ce livre.
D'abord parce que la philosophie, comme discipline, n'est pas normé méthodologiquement au sens où il n'y a pas une seule bonne méthode. Tant qu'on respecte les impératifs de probité intellectuelle, d'argumentation, de création conceptuelle, de raisonnement, on peut se nourrir d'expériences diverses. Là, c'est une expérience de terrain qui est extrêmement enrichissante pour penser, à mon sens, et qui consiste à se rendre sensible à des indices qu'on va considérer comme des détails révélateurs de structures invisibles, de structures cachées. Ça ressemble d'assez près à ce que Carlo Ginzburg, l'historien, appelait la micro-histoire ou le paradigme indiciaire. Finalement, c'est ce que fait un médecin lorsqu'il parvient à diagnostiquer la présence d'un virus invisible en voyant simplement la couleur de la peau ou la couleur du fond de l'œil. Il prélève des indices pour lire des choses invisibles. Et c'est aussi une méthode qu'on peut parfaitement appliquer en philosophie et en histoire, quand on traverse les archives et on va prélever des éléments en considérant qu'ils vont révéler une ligne de force, une trajectoire, une dynamique qui n'est pas évidente dans les faits.
Mais ça révèle quand même une connaissance très approfondie de la nature. Vous êtes capable de deviner des empreintes d'un grand nombre d'espèces animales. Vous êtes capable de passer des nuits dans le froid et dehors.
Ça implique en tout cas un vecteur d'apprentissage.
Et vous le conseillez à tout le monde?
Oui, je le conseille à tout le monde, bien sûr. Mais l'ouverture de cet espace n'implique pas de savoir. Elle implique une autre attention, un autre type d'attention. Elle implique des exercices de la curiosité. J'ai un exercice de la curiosité que je trouve extraordinaire qui m'a été fourni dans un livre justement d'école de la forêt, un livre qui en appelle à une école invisible. Invisible parce qu'elle n'a pas de mur. Et cet exercice de la curiosité, vous allez voir, il est intéressant parce qu'il a pour vocation d'ouvrir cette sensibilité, mais sans que vous ayez besoin a priori de savoir les choses. Justement, leur idée, très juste, c'est que le savoir, c'est ce qui vient après, c'est ce que vous avez envie d'aller chercher après, parce qu'on a ouvert un espace d'attention à quelque chose qui jusque-là n'existait pas. Alors, l'exercice est simple. Posez votre regard sur le premier vivant que vous voyez, quel qu'il soit, hormis nous-mêmes, arrêtez-vous quelques minutes et trouvez 25 questions à vous poser à son égard. 25 questions. Et il précise, ne cherchez pas nécessairement à y répondre. Ce qui pour moi, je précise, est assez difficile parce que moi, quand je me pose une question, j'aime bien chercher à y répondre. Mais là, dans l'enjeu, c'est de trouver 25 questions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, on se dit, mais c'est pas possible, 25 questions sur un corbeau de la faculté de Paris Diderot ou sur un brin d'herbe du Jardin des Plantes, on va jamais trouver. Et ce qui est prodigieux, c'est qu'on les trouve. Et à chaque fois qu'on trouve une question, on ouvre un espace en se disant, tiens, lui aussi, cette forme de vie aussi, je peux me poser la question de son origine, d'où elle vient, qui sont ses parents, avec qui elle interagit, qui l'a amené là, qui est son pollinisateur. Et c'est cet exercice de la sensibilité qui est fondateur dans le pistage, beaucoup plus que apprendre des choses dans des manuels.
Et le dernier épisode de la série d'une génération à l'autre, regard croisé, à l'horizon 2030 et enregistré en mars dernier, comme nous l'avons dit, c'est Matière à penser en compagnie de Valérie Chansigaud, historienne, et de Baptiste Morisot, philosophe et pisteur. Nous parlons de nature. Valérie Chansigaud, vous avez choisi cette chanson que nous entendons. Pourquoi ?
Parce que c'est un groupe punk qui s'appelle Blackbird Room, qui est un punk, je dirais, relativement récent dans cette déjà longue histoire du punk. Et le mouvement punk est historiquement est intéressant parce que ça a été un moment de radicalisation, de l'intérêt pour l'écologie, pour la nature, pour l'appropriation de l'espace. Par exemple, il y a énormément de magazines de jardinage punk qui
ah bon
paraissent dans les années 70 ou 80. Il y a aussi...
Et qu'est-ce que le jardinage punk ?
C'est en fait l'idée d'être autosuffisant. Par exemple, il y a un grand groupe fondateur qui s'appelle Crass. C'était une communauté d'artistes. Et ils étaient très fiers de leur jardin. Parce que, en fait, c'était l'idée de s'autosuffire pour ne pas dépendre d'un système économique qui est déshumanisant. Et derrière tout ce mouvement punk, il y a l'idée d'être autonome, de s'émanciper. Et ce groupe, par exemple, a une particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'instruments électriques pour pouvoir jouer n'importe où, dans une rue, dans un bus, au milieu d'un champ, parce que l'électricité, ça impose d'être dans un bâtiment.
Donc on part à la rencontre de la nature de cette manière. Quant à vous, Baptiste Morisot, effectivement, quelques sons choisis, mais je renvoie dans votre livre à beaucoup d'autres exemples et parfois tout à fait impressionnants, comme le jour où vous réussissez à dialoguer avec des loups, avec un loup en réalité. Hein. La meute elle-même n'est plus là.
Mais
vous êtes dans une grotte, vous apprêtez à y passer la nuit, je ne sais plus, vous alliez allumer un feu et vous criez et le loup vous répond et c'est un choc pour vous, une grande émotion.
Oui, c'est toujours une expérience assez intrigante et en même temps qui est un mélange d'étonnement. Comment est-ce qu'on peut communiquer, même si le contenu du message est assez aléatoire et je l'accorde obscur, mais comment est-ce qu'on peut communiquer avec une autre forme de vie, avec une autre espèce sauvage, avec laquelle on n'a pas de contact, de vie commune. Et en même temps, il y a un sentiment d'évidence, parce que c'est quelque chose finalement que... Parce que notre ascendance partagée est tellement ancienne que la possibilité de communiquer n'est pas si arbitraire que ça. Je suis vraiment fasciné à cet égard par une formule de Lévi-Strauss qui décrit ça comme une malédiction. La malédiction de partager notre planète avec des espèces qui sont des parentes et avec qui nous ne pouvons pas communiquer. Et il me semble qu'à cet égard, il n'a pas été suffisamment sensible aux pratiques des peuples sur lesquels il a travaillé et que Philippe Descola, par exemple, a bien documenté.
D'accord.
Ou l'anthropologue Edward O'Conn, dans lesquels on voit que les peuples amérindiens ont inventé des formes de communication omniprésentes avec les autres formes de vie. On contournait l'absence de langage articulé chez les autres animaux, puisque les autres animaux ne possèdent pas le langage à double articulation tel qu'il est présent chez nous, pour trouver des formes de communication qui ne correspondent pas bien sûr à une discussion de café, mais dont le contenu informatif est performatif et pragmatique et pourtant réel.
Et qui s'applique aussi aux plantes, à tous les êtres vivants, manière d'être vivant, hein, c'est bien votre propos. Et vous dites, évidemment, désolant, qu'on parle des enfants américains, mais peut-être qu'on pourrait le reporter à d'autres enfants aussi. S'ils sont capables de reconnaître une dizaine de logos, voire beaucoup plus d'ailleurs, mais certainement pas 10 feuilles d'arbres.
C'est beaucoup plus. Ils sont capables de distinguer 1000 logos de marque.
1000.
Et ils ne parviennent pas à reconnaître, à identifier 10 espèces de végétaux, 10 feuilles, d'arbres en l'occurrence, de leur région. Et ça, je trouve que c'est assez puissant comme expérience, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'en faire une critique anti-moderne, il s'agit de le prendre comme un symptôme. Et c'est un symptôme qui est très intéressant, parce que la capacité à discriminer les formes et à les reconnaître, qui ici est massivement orientée vers les logos de marques, trouve son origine dans l'évolution. Dans notre évolution, nous avons évolué la capacité à être capable de reconnaître, d'identifier les formes, et notamment les formes végétales. Et là, on voit le système de vases communicants entre l'intérêt pour les produits de consommation et les autres formes de vie. Il y a une corrélation entre la perte de sensibilité à l'égard des uns au profit des autres.
On retrouve la consommation, Valérie Chansigaud, de cette manière.
Oui, alors, pour faire l'avocate du diable, parce qu'il faut toujours... donner la parole à la défense aussi. Non, mais c'est que dans la société moderne, il est peut-être plus utile de reconnaître des logos de marque que de reconnaître des feuilles différentes dans le type de société dans lequel on évolue.
Bien sûr.
Ce qui est important, c'est de comprendre le rôle des normes sociales qui façonnent notre vie, qui sont également produites pas simplement que par un pouvoir supérieur à des personnes qui subiraient, mais qui est aussi produite par un besoin, c'est un besoin d'être dans le groupe conforme aux autres. Le conformisme explique en grande partie cette histoire. Il n'explique pas toute cette histoire, mais en grande partie.
Mais précisément ce type de société dans lequel on évolue, vous le condamnez aussi d'une certaine manière. Enfin, vous pensez qu'il ne va pas dans la bonne direction, mais tous ces mouvements en faveur de la nature qui se développent ne suffisent pas à gagner les combats pour la nature.
Sans doute. L'analyse que je fais, c'est que les dangers qui menacent la nature ne se trouvent pas dans la nature. Ils se trouvent bel et bien dans l'organisation sociale qui conduit à la destruction de la nature. C'est pas une question de distance à la nature. Je me méfie beaucoup de cette notion parce que elle a été utilisée depuis très longtemps, depuis au moins le 18e siècle, et sans doute beaucoup plus longtemps que ça. Une sorte de perte de contact avec la nature pour légitimer des sociétés qui ne sont pas forcément ni progressistes, ni simplement avec un minimum d'dignité pour les membres, quels qu'ils soient, humains ou non humains, qui la composent. Et si on n'a pas cette approche un petit peu concrète et politique pour aborder les choses, on reste à des niveaux extrêmement vagues et flous dans le rapport à la nature. Si on met pas des graines de questions sociales dans ces questions environnementales, les questions environnementales ne pourront jamais avancer.
C'est votre avis aussi, Baptiste Morisot ?
Absolument. Ça, je crois que c'est un constat qui est partagé par la pensée environnementale contemporaine, et notamment lorsqu'elle s'engage dans des questions d'écologie politique. Et très clairement, c'est l'organisation sociale, c'est le métabolisme social, comme on dit en économie écologique, dont nous héritons et qui est tardif, et qui n'est pas l'humanité en général, mais un certain produit contingent de notre histoire, de notre tradition, qui est à l'origine de cette destruction. Et c'est lui qu'il faut questionner, c'est ce dispositif d'économie politique. Moi, la question qui me semble cruciale, c'est que je crois qu'on ne peut pas savoir quoi défendre, quel monde défendre, si on ne sait pas qui on est. C'est-à-dire si on ne s'engage pas dans une bataille culturelle pour redéterminer, et je parle précisément d'anthropologie philosophique, c'est-à-dire de notre représentation de nous-mêmes, de notre image de nous-mêmes, quelle relation nous avons avec les autres formes de vie, avec le reste du vivant. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que l'appel à des apocalypses touchant des êtres comme les insectes, les pollinisateurs, qui ne sont pas considérés comme des êtres dans notre conception du monde, qui sont considérés comme justement de la matière au sens dualiste ou de la nature au sens dualiste, n'est pas susceptible de produire les effets de mobilisation dont on a besoin. Pour le dire plus clairement encore, aujourd'hui, si on veut changer le monde, il faut changer la PAC, par exemple. La politique agricole commune, qui est en train d'être renégociée, c'est précisément là que se jouent les subventions perverses à l'égard des formes d'agriculture qui sont destructrices pour les pollinisateurs, pour la faune des sols. Et c'est là qu'il faut travailler. Mais si on argumente simplement pour des raisons de soutenabilité ou pour des raisons, je dirais, qui ne font pas de place à qui sont les pollinisateurs et quel rôle ils jouent dans l'habitabilité de notre monde, je crois que la capacité à faire bouger des dispositifs aussi massifs que la PAC est affaiblie.
Et
c'est pour ça que je parle de bataille culturelle.
Vous êtes plus sur la bataille culturelle, je dirais, Valérie Sansego davantage sur la bataille politique et sociale, mais vous vous rejoignez sur l'objectif. Mais juste un point, est-ce qu'on fait assez de pédagogie ? Alors on parle de ces enfants qui reconnaissent 1000 logos et pas 10 feuilles d'arbres, peut-être que leurs parents d'ailleurs n'en font pas beaucoup plus. Est-ce qu'on pourrait faire de tous ces enfants des pisteurs ?
C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas énormément réfléchi, mais je suis persuadé que la réponse est oui. La bataille culturelle, pour moi, bien évidemment, elle prend des formes pédagogiques, mais elle prend d'autres formes. Elle est bien évidemment inspirée en économie politique et en fait en philosophie politique des travaux de Gramsci, c'est-à-dire de cette idée que, en plus de militer, de lancer l'alerte, d'inventer d'autres manières d'habiter, de travailler sur les politiques publiques, on ne peut pas se passer de constituer un front unitaire qui prend la forme d'une bataille culturelle. À cet égard, pour moi, c'est un niveau d'analyse qui est sous-estimé aujourd'hui sur les questions écologiques. C'est ce que j'appelle une culture du vivant. Aujourd'hui, on a un ministère de l'écologie qui fait ce qu'il fait. On a des partis écologistes, on a des associations de protection de la nature. Tous ces éléments, tous ces acteurs ont un rôle important à jouer. Mais il me semble que un niveau qui mériterait d'être vivifié, c'est le niveau de ce que j'appelle une culture. Au sens où on parle, par exemple, d'une culture des luttes en France. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est d'articuler, et c'est sur quoi je travaille actuellement, la culture des luttes, qui est notre héritage. À mon sens, la grandeur de la France, s'il y en a une, c'est pas le général de Gaulle, ni l'Arc de Triomphe, ni l'industrie aéronautique, c'est la culture des luttes. Et c'est la culture des luttes telle qu'elle trouve son événement, son mythe fondateur dans la Révolution française, mais telle qu'elle s'est enrichie jusqu'à ce qui s'est passé sur les ronds-points. Cette culture des luttes, à mon sens, est extrêmement puissante dans ses effets d'émancipation. Elle est extrêmement puissante dans sa capacité pour une société à protéger ce qui en elle ne doit pas être soumis à des forces destructrices, par exemple les forces du marché. Et à mon sens, l'un des grands enjeux aujourd'hui, ce serait d'arriver à tisser ensemble cet héritage de la culture des luttes avec une culture du vivant. Et donc, à faire que ces héritiers de la culture des luttes, en même temps, se rendent sensibles au mode d'existence des autres formes de vie,
aux interdépendances,
à leurs exigences, aux interdépendances,
ouais.
Pour faire rentrer dans cette tradition des luttes des acteurs qui sont restés secondaires dans notre tradition.
Mais c'est pas ce qui se passe en ce moment. Par exemple, vous dénoncez la relation aux animaux, vous dites l'animal est infantilisé, c'est un jouet pour les enfants, c'est une peluche quasiment, on ne les connaît pas.
Je pense qu'il y a plusieurs couches d'histoire dans cette affaire. L'infantilisation de l'animal, c'est une histoire qui est plus passée. Quand vous dites ce n'est pas ce qui se passe maintenant, j'ai l'impression que maintenant les choses bougent. Elles bougent à grande vitesse, elles bougent dans des directions qui nous échappent parce que on est dans des situations métastables. Une culture, à la différence d'une mentalité au sens de l'histoire des mentalités à la Jacques Le Goff, c'est beaucoup plus versatile, c'est beaucoup plus difficile à stabiliser, à comprendre. Donc moi j'ai le sentiment quand même qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire et qui mérite d'être accompagné, profilé pour produire des effets.
Oui, je vous ai pas demandé de travail prospectif à l'un à l'autre, mais c'est vrai qu'on parle de 2030 et vous êtes en train un peu d'amorcer votre vision de ces 10 ans très proches. Valérie Chancigo, sur tout ce que nous dit la Baptiste Morisot.
Tradition des luttes. Alors forcément, c'est un peu compliqué parce que quelles luttes exactement, quelle importance elles ont eu lieu. Si on prend les 50 dernières années, ce qu'on peut constater au niveau du monde, c'est un double mouvement qui est l'accroissement des inégalités sociales et l'effondrement de la biodiversité.
Vous ne les dissociez pas?
C'est compliqué de les associer. Il n'y a pas un rapport de causalité de l'un qui expliquerait l'autre. Il y a probablement quelque chose qui domine ces deux aspects qui en expliquent en fait les tendances, qui est effectivement une société de plus en plus brutale et violente, même si cette idée de société de plus en plus brutale et violente, c'est compliqué aussi à intégrer au regard du temps un petit peu long sur deux siècles. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a des luttes contemporaines, mais je n'ai pas l'impression que ces luttes forment une sorte de front commun suffisamment cohérent pour peser sur l'évolution de la planète. Ce qui est beaucoup plus en vague de fond sur les dernières années, c'est une vague de fond quand même d'un populisme de droite dure qui est en train de grignoter partout la démocratie. Et la dynamique, s'il y a une dynamique actuelle, va plus dans ce sens-là. Il y a, à côté de cela, une minorité, mais qui est minoritaire, deux personnes qui se disent concernées, qui sont effectivement concernées, qui veulent effectivement
minorité
faire bouger.
Minorité assez agissante, ou pas assez? En tout cas, ça ne suffira pas pour vous.
Disons, une minorité visible dans les médias. Après, est-ce qu'elle est visible en termes de poids politique? Ça, j'en doute beaucoup. Et surtout, ce qui se passe, c'est que c'est une minorité, quand on regarde les compositions sociales, elle reflète les inégalités. Dans les manifestations de lycéens, par exemple, il n'y a pas toutes les classes sociales.
Vous l'observez dans beaucoup de pays, ce que vous êtes en train de dire là.
À peu près, oui.
Je serais beaucoup plus sceptique sur ce point.
Baptiste Morisot.
Et notamment, je fais référence au travail de Joan Martinez Allière dans l'écologisme des pauvres, qui invente justement cette catégorie pour critiquer l'idée que l'environnementalisme serait, je dirais, sociologiquement marqué, notamment chez les classes culturellement les mieux dotées, ce qui est en partie vrai pour les pays dits développés. Mais il montre, et à mon sens, c'est le grand apport de son travail, ce qu'il appelle cet écologisme des pauvres, qui est des luttes environnementales omniprésentes en Amérique latine avec la Fia Campesina, en Asie du Sud-Est, contre les grandes fermes productrices de crevettes. Et la propriété de cet écologisme est assez fascinante. Elle hérite pas du tout de la valorisation de la nature romantique, elle hérite pas du tout de l'opposition nature-humanité, elle hérite de cette idée que le milieu est un environnement donateur. Et c'est pour cette raison qu'il faut le protéger. Et la raison pour laquelle on va lutter contre des grands projets industriels chez ces populations qui sont très pauvres et qui, la plupart du temps, ont un capital culturel au sens bourdieusien assez faible, c'est de lutter pour leur environnement donateur. Et c'est une forme d'écologisme qui est omniprésente dans ces traditions des Suds et qui y est puissante. Et à mon sens, un des enjeux, à nouveau, c'est de réfléchir à comment allier les traditions environnementalistes dont on hérite, qui sont minoritaires, effectivement, et cette forme d'écologisme des pauvres, qui, à certains égards, est susceptible d'être une bonne description de ce que va être le futur pour une raison assez simple. C'est que les pays les plus développés, dont nous sommes, vont basculer au XXIe siècle dans les situations, à mon sens, de détresse du fait des crises environnementales, sanitaires, alimentaires, induites par essentiellement le réchauffement climatique, vont basculer dans la situation de l'écologisme des pauvres. C'est-à-dire non plus utiliser l'excédent de capital généré par le système économique pour aller protéger une espèce, protéger un lieu, ce qui est un peu le modèle de l'environnementalisme dont on hérite, l'environnementalisme des ONG, pour le dire très schématiquement, des ONG...
ou de la société civile engagée, voilà.
Mais une situation dans laquelle la vulnérabilité de la société humaine, articulée à la vulnérabilité des milieux, va impliquer d'en prendre soin comme des environnements donateurs. À cet égard, je crois qu'il y a des leçons à aller chercher dans l'écologisme des pauvres pensé par Joan Martínez Alier.
Valérie Chansigaud, quand vous parlez de... Vous dites en gros que ça ne suffira pas de troquer la fameuse main invisible du marché contre, appelons-la la main invisible de la nature, ça n'est pas suffisant. Ce que vous dites, vous préciserez, c'est que ça ne peut pas se faire dans le progrès social. C'est-à-dire, vous continuez quand même de dire que c'est une affaire d'inégalité entre nantis et les autres.
Disons qu'il faut vraiment être capable d'imaginer un monde qui soit un tant soit peu désirable. Et le défaut, c'est que l'essentiel des discours sont des discours qui visent à restreindre, que ce soit la consommation, la liberté, peu importe, et pas à produire quelque chose qui serait de l'ordre du positif. C'est pas l'accession à la liberté que l'on vend, mais plutôt une sorte de soumission à des contraintes extérieures, d'où le succès des notions de limites, y compris dans l'extrême droite qui s'en empare avec délice. Parce que il faut bien voir que si on n'est pas capable de formuler la structure d'une société qui puisse faire bondir nos imaginations...
Puisse le faire collectivement, en fond, c'est ça votre problème.
Ça soit audible par tout le monde. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement partagé. Et pas simplement que dans nos sociétés, on peut voir aussi la montée du populisme de droite dans des sociétés comme le Brésil et bien d'autres sociétés. Je suis pas convaincu que ce discours soit le discours dominant.
On est en train de perdre la guerre, pour revenir à votre titre, des combats pour la nature, Valérie Chansigaud.
J'ai l'impression qu'on perd la guerre, oui, par manque d'ambition, par manque de capacité à développer les discours au-delà de rhétorique entendue quand même de façon répétée depuis très longtemps.
On regarde l'histoire, en plus vous pouvez nous l'affirmer. Alors Baptiste Morisot, qui observe la nature et qui la parcourt, est peut-être plus optimiste à cause de cela, Baptiste Morisot.
Mais je ne crois pas être
parce
plus
optimiste. Parce que vous êtes philosophe, je ne sais pas.
Non, mais pas du tout. Mais déjà, je ne vois pas en quoi on m'attribue un optimisme. Je ne revendique aucun optimisme et ni aucun pessimisme. D'ailleurs, j'avoue que ça m'intéresse assez peu.
Vous revendiquez un grand plaisir du contact avec la nature, de l'interdépendance avec le vivant.
Je ne le revendique pas, ça, je l'expérimente, c'est différent.
Vous le vivez.
Pour ce qui est de la dimension prospective, de ce qu'il y a faire ou de poser le problème du futur, j'avoue que le débat optimisme-pessimisme ne me semble pas faire sens. À mon sens, le seul débat qui fait sens, c'est 1. Disposons-nous d'énergie excédentaire ? 2. Qu'en faisons-nous ? Toute tentative de prédire dès maintenant si il est trop tard pour freiner me semble hors de propos. Je vois pas ce qu'on a de mieux à faire aujourd'hui, et je suis pas du tout certain que on puisse le prédire. Alors, on a toutes les raisons du monde d'être, sceptique quant à ce qui se passe. On a toutes les raisons du monde de douter que les stratégies mobilisées jusque-là sont fonctionnelles. Raison de plus pour en inventer d'autres, raison de plus pour activer toute l'énergie, toute l'intelligence possible pour essayer d'inventer un monde désirable.
Mais vivre en commun est une question politique. Elle n'est pas
bien
que
sûr.
De culture.
Mais bien sûr, mais j'ai jamais dit le contraire. La bataille culturelle est un problème de philosophie politique. Relisez Gramsci à cet égard, c'est fondamentalement un problème d'hégémonie. L'hégémonie culturelle a pour vocation de transformer les sous-bassements diffus d'un projet politique. Le point du problème, je crois, qui est massivement négligé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'appel un peu normatif. Il faut que ce soit politique, mais le problème, c'est que personne ne sait exactement ce qu'on entend par politique. Le politique, c'est 1000 formes de pratiques qui sont différentes. Et il y a une violence inutile à jouer systématiquement l'une contre l'autre. Ce que j'essaie simplement de rappeler, c'est que parmi les formes du politique dont nous avons besoin, la bataille culturelle en est une. Mon argument est relativement simple. Les ennemis du vivant, les ennemis de la nature, ceux qui la détruisent, ne négligent pas la bataille culturelle. Ils sont parfaitement au courant qu'elle est absolument centrale. Et ils s'activent dans son sens. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas la négliger non plus.
Valérie Chansigolot, au dernier mot.
Ce qui est fascinant avec la nature, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un seul regard sur la nature. Ce que je regarde souvent dans la nature, c'est les gens regarder la nature. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est quel regard on porte sur la nature. Et si on suit un ornithologue, un botaniste ou quelqu'un qui a une autre sensibilité, on se rend compte qu'il ne voit jamais la même chose et jamais, entre guillemets, je suis très prudente avec ce que je vais dire, avec la totalité de la nature. On voit toujours une portion congrue de la nature. Et c'est incroyable de voir à quel point, dans toutes les cultures, il y a une sorte de préjugé commun qui fait qu'on fractionne le regard qu'on a sur la nature. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fascinant, de voir à quel point c'est présent chez l'être humain depuis toujours.
Vous n'allez pas beaucoup aimer cette question, mais quand même, craignez-vous 2030, l'un et l'autre ?
Moi non, je la crains
Baptiste
pas,
Morisot.
Je l'espère pas, mais j'y travaille.
Ah ben moi je la vois avec curiosité, j'adore voir le présent se faire, donc c'est vraiment fascinant de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux. Et une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui le monde est totalement ouvert, on est absolument incapable de prévoir vers quoi on tend.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
De belles lectures, en tout cas, à vous recommander. Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social, par l'historienne Valérie Chansigaud. C'est paru chez Buchet Chastel et de Baptiste Morisot, pisteur et philosophe. Manière d'être vivant, paru chez Actes Sud dans la collection des Mondes Sauvages. Et merci bien sûr à notre équipe, Anne-Laure Chanel, qui réalisait l'émission, en compagnie ce soir de Bruno Mourlan, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et notre stagiaire Julie Voinchet pour la préparation. Pour la documentation, vous retrouverez d'ailleurs tous les titres des livres de nos invités de toute cette série consacrée à l'horizon 2030 sur notre site. Très très bonne soirée à tous.
Say the truth and run.